Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Vieille Europe, toujours sur Radio Courtoisie. Alors autour de moi pour cette émission, notre équipe est au complet. On va avoir tout à l'heure Philippe Christel, Pascal Essérick qui vient juste de s'asseoir et on a même Grégoire Gambier. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Nous avons le plaisir de recevoir Jean-François Gauthier pour son livre Le sens de l'histoire, une histoire du messianisme en politique aux éditions Ellipse. Bonsoir Jean-François Gauthier.
Bonsoir.
Alors pour vous situer vis-à-vis des auditeurs, mais je crois que certains ont dû déjà vous écouter sur certaines émissions, dont l'émission du Libre Journal des Historiens, je crois que vous êtes passé.
Voilà.
Vous êtes docteur en philosophie, vous avez publié de nombreux essais consacrés à l'histoire de la philosophie, la pensée médicale, mais aussi la musique. Et puis vous écrivez régulièrement dans une revue qui nous est chère ici, que nous connaissons bien, c'est la revue Éléments. Commençons par le début, c'est quoi le sens de l'histoire? Car c'est pas vraiment le contenu de l'histoire que vous expliquez.
Non, le sens de l'histoire c'est quelque chose qui est né assez tardivement dans l'histoire des idées, et c'est né de la confrontation... de deux cultures, une culture sémitique et une culture hellénique. Dans la culture hellénique, il n'y a pas de sens de l'histoire. C'est assez bien abordé par Hésiode dans sa Théogonie. Dans sa Théogonie, il décrit le monde comme apparu à partir de ce qu'il appelle chaos, qui est un terme strictement intraduisible, surtout pas par le terme chaos en français. Le terme chaos en français veut dire désordre. Le chaos grec n'est pas un désordre, c'est de l'indicible. Et de chaos sont nées différentes forces, dont Uranos et Gaïa, c'est-à-dire ciel et terre. De ciel et terre non séparés, donc... dans un état où ni le temps ni l'espace n'étaient spécifiés en tant que tels, sont nés les Titanides, ensuite sont apparus, après la séparation de ciel et terre, de Uranos et Gaïa, sont apparus les dieux, qui sont devenus les dieux olympiens, et après cela sont apparus les hommes. Et alors, quand vous êtes dans un monde hellénique, si vous demandez à Athènes, aux prêtres d'Athéna, ou à Delphes, aux prêtres d'Apollon, d'où ça vient tout ça, d'où c'est né, quelle est l'origine, ils sont incapables de répondre parce que les dieux dont ils sont les intermédiaires sont apparus après. Et il y a, en quelque sorte, dans les mentalités européennes antiques, une sorte d'analphabétisme divin relativement aux origines. Ce qui fait que tout cela n'a pas de sens prédéterminé. On ne sait pas d'où l'on vient. Alors évidemment, à cela est opposable, ne s'opposait pas à l'époque, mais est opposable une autre configuration du temps historique qui est particulière aux mentalités sémitiques, dans lesquelles il y a un divin créateur, et ce divin créateur est au principe du monde et du temps qui vient, et il est aussi au principe de la sortie de ce monde, au rachat des erreurs et des péchés, et à la résurrection de la chair, etc. Alors, quand vous avez un même principe qui est le principe de l'origine, le principe du déroulement du temps et le principe de la fin des temps, vous avez là, effectivement, un sens de l'histoire. Mais ce sens de l'histoire est vraiment très spécifique, très particulier, et concerne ces mentalités, ces représentations sémitiques. Alors, les deux se sont liés petit à petit, avec de très très nombreux débats, de très nombreux conflits. Enfin, tout ça a mis un peu plus de 7 siècles pour s'éclaircir un petit peu. Et disons que en Europe, il y a encore des désaccords sur le fait que l'histoire a un sens ou n'a pas de sens.
Donc, en gros, si je devais vous résumer, vous avez d'un côté les monothéistes et de l'autre les polythéistes. Chez les historiens vont arriver à partir de quand? Les premières histoires, on pense bien sûr, il y a tout un chapitre sur Homer, mais Homer n'est pas un historien, c'est pas quelqu'un qui c'est quelqu'un qui raconte une histoire.
C'est un aède, oui, c'est un poète. Les premiers historiens, donc, c'est Hésiode, bien sûr, et surtout Thucydide. Thucydide qui raconte donc les guerres entre les habitants du Péloponnèse et les habitants de l'Attique, qu'on a appelé de manière un peu raccourcie les guerres du Péloponnèse, mais bon, il y a quand même quelques batailles en Attique. Et c'est un chroniqueur. Mais il ne donne pas de sens à cette histoire. Et il montre très bien qu'en chaque étape du développement des guerres péloponnésiennes, il y a eu des incertitudes, il y a eu... lui-même, d'ailleurs, a été satrape à un moment, et donc a perdu une bataille. Il a été exclu d'Athènes du fait de cette bataille perdue, et c'est ce qui lui a permis d'aller enquêter... d'un côté et de l'autre des parties en conflit, et ces guerres du Péloponnèse sont le compte-rendu pris d'un côté et de l'autre des parties en conflit, et chacune des deux parties reconnaît que l'issue n'était pas certaine, que ça aurait pu se dérouler autrement s'il n'y avait pas eu ceci, s'il n'y avait pas eu cela, donc il y a toujours de l'incalculable, de l'inconnu, de l'aléa dans le déroulement des événements. On ne sait pas d'abord et avant ce qui va se passer. Il n'y a pas chez eux de sens déterminé de l'histoire.
Par contre, il va être l'un des premiers à voir qu'il y a des constantes, il y a des choses qui reviennent chez Thucydide.
Alors non, il n'y a pas des choses qui reviennent. Il dit simplement il y a des comportements qui peuvent être des leçons pour l'avenir. Hein, et c'est pour ça qu'il en fait le compte-rendu. En fait, bien sûr, il y a l'aspect technique de la guerre, mais on pourrait dire que c'est une manière d'écrire l'histoire qui est à la fois la manière d'un moraliste et la manière d'un anthropologue. Bon, évidemment, le terme est, ne convient pas au sens strict, il n'y avait pas d'anthropologie telle que nous l'entendons, mais c'est une étude des comportements humains, finalement, avec cet arrière-fond, cette perspective. Ces leçons-là peuvent servir effectivement à d'autres.
Alors, dans le monde de la Bible, l'histoire est bien sûr bien différente. Premièrement, il y a le passé déjà établi, hein. Tout est en place, c'est Dieu qui a mis en place, et par les textes on le retrouve, on prévoit aussi l'avenir dans la Bible, on donne des ce qui risque de se passer, et on parle pas du présent. Vous dites que c'est ce sont des textes où on ne parle pas du présent. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Mais la langue elle-même ne comporte pas de présent. Hein, les langues sémitiques ont dans leur conjugaison des temps que l'on appelle imperfectifs et des temps perfectifs, c'est-à-dire des temps qui sont relatifs à ce qui s'est déjà passé ou des temps relatifs à ce qui va advenir. Mais le présent lui-même n'est pas intégré dans les conjugaisons de la langue hébraïque ancienne. Hein, en quelque sorte le temps du divin qui lui-même n'a pas de temps. Hein, il est toujours en surplomb de l'histoire, il n'est pas intégré comme événement historique, sinon à quelques épisodes, notamment celui du buisson ardent où Moïse demande « Bon, tu me dis d'aller conduire mon peuple vers Canaan, mais au nom de qui dois-je parler ?» Et c'est là qu'il répond quelque chose qui pour nous est strictement intraduisible, précisément parce que ça joue sur le sens à la fois passé et futur d'un présent qui désigne dans cette langue et dans cette mentalité quelque chose qui surplombe l'histoire et qui n'est pas de l'ordre de l'événementiel.
On est dans les deux cas autour de la Méditerranée, donc ces histoires vont faire que ces gens vont se rencontrer, comme vous le disiez tout à l'heure. Il y en a qui vont quasiment dire que Socrate, Platon, ils ont puisé la doctrine dans la Bible, hein, tout ce qu'ils ont pu raconter, ça avait déjà été dit. Quand certains vont essayer de traduire la Bible en grec, c'est quasiment, vous expliquez, c'est une mission quasiment impossible.
C'est
deux mondes qui se rencontrent et qui peuvent pas se
c'est mission impossible. possible. Alors, la traduction grecque de la Bible, bon, c'est Alexandrie au IIIe siècle. Bon, Alexandrie, qui est une très grande ville, hein, c'est la deuxième ville de Méditerranée. C'est un centre culturel tout à fait extraordinaire, puisque bon, cette ville a été fondée par Alexandre et reprise après par l'un de ses satrapes, Ptolémée Ier. Dit Sautère, le sauveur, qui a voulu faire d'Alexandrie un centre culturel au moins concurrent d'Athènes. Et c'est lui qui a fondé la grande bibliothèque qui va contenir jusqu'à 400 000 volumes à la mort de son fils et pratiquement 700 000 volumes à l'arrivée des Romains, donc en 70. Bon. Ce centre culturel est tel que à la fin du IIIe siècle, oui, la communauté hébraïque éprouve le besoin de se faire comprendre, parce que c'était quand même les seuls qui, entre eux, ne se causaient pas grec. Et puis, quand on leur disait « Mais qu'est-ce qu'il y a dans vos textes ?», bon, on arrivait dans des trucs un peu bizarres, et on ne pouvait pas se faire comprendre de son voisin de palier. Donc, dit, bon, ben écoutez, il faut quand même trouver une traduction, il faut la faire. Et alors, ça a été, mythiquement, c'est l'histoire qu'on raconte, le travail de 72 rabbins exécutés en 72 jours, et c'est pour ça qu'on appelle cette Bible la Bible des 70. Bon. Mais les problèmes commencent dès le premier verset. Parce que le Bereshit Bara Elohim, bon, ça fonctionne dans leur langue. Mais en arken o theos, au commencement, Dieu. Ah tiens, il y a un dieu qui s'appelle Dieu. Alors ça, pour la mentalité hellénistique, c'était strictement incompréhensible. Ouais. Vous pouvez appeler un dieu Zeus, vous pouvez appeler un dieu Apollon, vous pouvez appeler la copine Athéna, vous pouvez faire tout un tas de choses, mais appeler un dieu Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et il va falloir 7 siècles pour que ça commence à prendre du sens, à prendre de la signification plutôt. Hein. Et vous voyez, rien que sur ce premier verset, les problèmes sont colossaux. Il y a des différences de mentalité telles qu'il y a des choses qui ne sont pas traduisibles, qui ne sont pas transcriptibles, parce que tout simplement, elles ne sont pas vécues de la même manière. Et c'est quelque chose sur quoi, à mon avis, on n'insiste pas assez, c'est qu'il y a des langues dans lesquelles il n'y a pas de transposition possible. Nous avons des langues dans lesquelles nous avons des organisations en sujet-verbe-complément qui peuvent se mettre au passé, qui peuvent se mettre au présent, qui peuvent se mettre au futur. Quand le Dieu, alors pourquoi lui et pas un autre, se met à créer le monde, ça devient complètement incompréhensible. Et ça allait longtemps rester.
Oui, 7 siècles quand même.
C'est devenu compréhensible et je n'en suis pas certain.
Enfin, tout le monde s'est un peu arrangé dans cette histoire. Avant de continuer, peut-être sur. On parlera de l'islam et puis bien sûr de l'Europe. Vous avez un chapitre sur l'Orient compliqué qui regroupe le manichéisme, le martianisme, le docétisme. Quelles ont été l'influence de. Parce que c'est très peu connu. Est-ce que ces sens de l'histoire ont eu une influence sur le reste de l'Europe?
Alors, c'est une influence sur le reste de l'Europe. Ça naît, disons, dans ce qui s'appelle aujourd'hui une partie de la Syrie, de l'Irak, le sud de... Vous voyez, c'est ça, le sud de la Perse. Bon. Et alors là, il y avait plusieurs dieux, mais surtout, il y avait deux types de puissances. Il y a des puissances maléfiques et des puissances positives. Et alors, c'était assez curieux, parce que dans ce monde bipartite, où il y a des puissances du bien, des puissances du mal... Il y a des cultes qui sont rendus plutôt puissances du mal, parce que les puissances du bien, on sait qu'elles ne feront pas de mal, alors que les puissances du mal, il vaut mieux les mettre de son côté, donc on sacrifie plutôt aux puissances du mal plutôt qu'aux puissances du bien, quoi. Vous voyez ça aujourd'hui dans certains systèmes électoraux, et puis ça n'est pas le sujet. Mais ce bipartisme va se développer énormément dans une école, une religion même. Il faut reconnaître que c'était une religion, la religion de Mani, qu'on a appelée le manichéisme plus tard, et qui est une religion dans laquelle les deux puissances sont en permanence en conflit, et l'histoire est l'histoire de ce conflit-là entre deux types de puissances, et la fin de l'histoire sera le moment où les puissances du bien, ou la puissance du bien, parce qu'il n'y en avait qu'une dans l'essentiel des écoles de Mani, va triompher des autres. Il faut reconnaître à cette religion qui a une partie d'origine idéologique et de représentation commune avec ce qui va devenir les christianismes plus tard, que c'est la seule religion qui était capable de donner une explication sensée de la crucifixion. Dieu s'est laissé crucifier pour montrer que les puissances du mal sont tellement abjectes qu'il vaut mieux s'en détourner. Et aucun christianisme n'a donné une explication, je ne dirais pas aussi rationnelle, mais aussi compréhensible que celle-là. Alors, ces mentalités-là, on va les retrouver dérivant petit à petit vers l'ouest, avec les Bogomiles, et puis un peu plus tard, avec les Cathares dans le sud de la France. Hein, les Cathares qui sont aussi des religions dans lesquelles il y a une opposition assez stricte entre les puissances du bien et les puissances du mal. Et motif pour lequel, d'ailleurs, le catharisme, pour éviter de tomber dans ce que finalement il reprochait aux institutions ecclésiales, c'est-à-dire trop de luxe, tomber dans des vies ascétiques. L'ascétisme est une manière de se débarrasser du mal.
Ouais. Ce qui est surprenant, c'est l'islam, parce que c'est quand même une religion qui va après les deux premières, va énormément s'étendre. Mais vous dites que en fait, le Coran, c'est une copie de la Torah, et que derrière, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que quelques pages sur l'islam. On aurait pu penser que vous alliez développer plus.
Je manque de moyens linguistiques, c'est-à-dire que je n'ai pas étudié les textes d'assez près dans leur langue d'origine. Alors, je n'ai pas écrit que c'était une copie de la Torah. Il y a une forte inspiration.
C'est-à-dire que le Coran est presque une... j'ai peut-être vulgarisé, je vous l'avoue.
il y a une forte inspiration, oui. Mais c'est le même monde. Ce sont des langues qui sont structurées de la même manière. Il y a quand même une forte différence entre les deux. C'est que le mot Jérusalem doit apparaître 850 ou 900 fois dans la Torah,
pas une seule fois dans le Coran.
Donc, il y a quand même une désignation négative de l'ennemi par absence de celui. Non, ce qui est le plus étonnant alors dans l'aventure de l'islam, c'est la vitesse à laquelle il s'est étendu. Il n'y a que deux exemples de ce type dans l'histoire. C'est l'extension territoriale de l'islam. Bon, pour partie guerrière, c'est sûr, mais ça ne suffit pas pour expliquer toute la surface colossale qui a été occupée, et l'extension territoriale du communisme. Et alors, je ne donne pas de solution à cela, mais peut-être qu'on peut méditer sur le fait que le simplisme du message permet effectivement une extension relativement rapide. Il y a le monde du bien, le monde du mal. Si vous choisissez le monde du mal, c'est dommage pour vous. Nous sommes le monde du bien. Bienvenue au club. Et c'est finalement...
L'avantage, c'est que c'est simple à comprendre, c'est vrai.
Voilà, c'est ça. ça évite de fortes réflexions, et de fortes réflexions théologiques. Et ça les évite d'autant mieux qu'il y a eu un moment dans l'islam, un calife de Damas, qui a interdit les discussions théologiques. Tout est déjà dit, donc il n'y a plus rien à discuter, il n'y a qu'à appliquer. Ça date du XIe siècle, et c'est ce qui a permis à l'islam de subsister simplement, sans avoir tous les débats théologiques qu'ont connus, par exemple, les christianismes européens. Il y a, disons, trois types d'islam, et puis point final, on peut tirer le trait.
Alors, vous êtes toujours sur Radio Courtoisie. On reçoit Jean-François Gauthier pour son essai « Le sens de l'histoire, une histoire du messianisme en politique » aux éditions Ellipse. Alors, on va revenir en Europe, et l'un de vos principaux chapitres concernant Joachim de Flore, c'est un penseur du XIIe siècle qui va avoir une influence considérable. Alors, il est pour vous la source presque de toutes les philosophies modernes. Et peu connu quand même, c'est ça qui est surprenant. Et on s'aperçoit que jusqu'à la Réforme, et vous citez même des auteurs contemporains, il aura de l'importance.
Alors il est peu connu parce que l'Église ne sait pas trop quoi en faire. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de mouvements un peu hérétiques qui en sont issus que, il a été considéré comme un saint en Calabre après sa mort. La papauté l'avait assez considéré pour lui donner le travail du prêche de la quatrième croisade, mais en même temps, tout ce qui est issu des mouvements joachimiques est quand même souvent un peu bizarre, quoi. Il avait donné pour date de la résurrection finale, enfin du paraclet, 1266. Alors évidemment, il y en a qui sont préparés en 1265, hein, mais quand est arrivé le 1er janvier 1267, il y avait quand même quelque chose qui manquait. Mais il faut quand même se rendre compte que en Italie même, il y a eu des mouvements de guérisseurs du côté de Milan. Il y a eu des mouvements de flagellants. Les grands mouvements de flagellants sont nés à cette époque-là. Vous aviez quand même des foules de 10 à 15 000 personnes qui parcouraient la campagne en se flagellant pour faire advenir le moment ultime et se mettre en état de faire partie des corps sauvés par la résurrection qui allait arriver. Il y a donc là une intégration dans l'histoire quotidienne du public qui a suivi ces mouvements joachimites. Il y a une intégration du devenir comme étant très bientôt présent. Hein, c'est-à-dire qu'il y a en quelque sorte un reflux du sens ultime de l'histoire vers le présent, et c'est en fonction de ce sens ultime de l'histoire que doit se construire que doivent se construire les conduites d'aujourd'hui. Hein, et comme ce moment ultime est la vérité de l'histoire, il faut absolument intégrer l'organisation des conduites personnelles dans la vérité de l'histoire collective à laquelle elles sont intégrées.
Est-ce qu'il va avoir vous parlez même, il va avoir un retour vers au moment de la réforme. Quelle va être son influence? Est-ce qu'il va avoir une influence par rapport aux grands théologiens de la réforme? Et pourquoi?
Alors pourquoi? Parce que la logique joachimite, bon, c'est une interprétation de l'Ancien Testament qui est lue de manière telle qu'on considère qu'il s'agit d'une allégorie de ce qui va advenir dans le Nouveau Testament. Autrement dit, il y avait un âge du Père qui a été l'aventure hébraïque, il y a un âge du Fils qui est l'aventure de l'Église catholique, et il va y avoir un âge de l'Esprit. Et il faut nous mettre de plein pied dans cet âge de l'Esprit qui est l'âge ultime de l'histoire. Et vous allez avoir le même type de schématisme avec le passage d'une époque à l'autre. Alors, le passage est toujours mal décrit. Enfin, on se rend compte que c'est pas leur problème, finalement. L'important, c'est de déterminer des étapes comme ça. Mais vous allez avoir exactement la même logique chez Hegel, chez Auguste Comte et dans une grande partie de la modernité. Alors, non pas comme des reprises ou des commentaires de type universitaire des textes de Joachim, hein, mais il y avait cet héritage, c'est-à-dire que les idées ont traîné, ça faisait partie de ce dont on discutait et qu'on trouvait à peu près compréhensible par tous. Mais quand vous regardez les grands textes de la Révolution française, vous voyez aussi cette description d'une sorte de loi des trois états avant Auguste Comte, c'est-à-dire que vous avez un état de nature, un état des ténèbres et un état qui est celui des lumières. Et tous les grands textes de la Révolution font référence à l'âge des lumières qu'il faut incarner, il faut nous préparer, reconstruire ou construire ce temps des lumières qui est l'âge dernier de l'humanité. Vous prenez un texte comme le grand tableau de Condorcet. Dans le tableau de Condorcet, alors je les ai comptés, il y a 70 fois le terme lumière, et sur les 70 fois, il y a une seule fois où ça désigne la lumière lumineuse, celle qui éclaire, et les 69 autres fois, c'est un sens moral, éthique, historique. Il faut faire de l'éducation pour que les lumières arrivent sur les enfants.
On est dans du pays.
Mutatis mutandis, c'est la Pentecôte partout, quoi. Il y a des lumières qui descendent dans tous les sens.
J'ai l'impression que vous passez vite sur les Anglais et les Américains. Est-ce que vous pensez que c'est une pensée un peu pauvre? On avait reçu Denis Lacorne pour son livre La religion en Amérique. Et il nous expliquait quand même que l'Américain, la religion venait d'en bas. Donc, de toute façon, un Américain de base changeait deux ou trois fois de religion. C'est pas très important chez eux, la chose théologique.
Alors, la chose théologique n'est pas importante. Changer de religion, c'est pas tout à fait comme vous le dites. Ils changent de culte.
Oui, c'est d'église. D'église, voilà.
Mais le contenu est à peu près le même. Toujours le même, c'est-à-dire que les États-Unis, depuis le 20 novembre 1620, c'est daté, c'est-à-dire depuis l'arrivée du Mayflower, du fleur de mai, dans la rade de Boston, Dieu leur a donné une terre. Et ils sont la Nouvelle Jérusalem. Et ça, c'est toujours présent chez eux. C'est-à-dire que le quatrième jeudi du mois de novembre, c'est le Thanksgiving Day. C'est le grand jour du remerciement. Et du remerciement de quoi? Du remerciement du fait que Dieu leur a donné cette terre. Et ils ont la même nourriture que celle des premiers colons. C'est-à-dire la dinde et le maïs, qui étaient à cette époque-là troqués auprès des tribus indiennes locales. Donc le religieux est fondateur des États-Unis d'Amérique. Vous avez encore sur le dollar la devise « In God we trust », « Nous croyons en Dieu ». Et sur le ceinturon du GI, vous avez le « God with us », « Dieu avec nous ». Bon, vous aviez sur certains ceintures germaniques un Gott mit uns qui voulait dire à peu près la même chose. À ceci près que Gott est un neutre pluriel en allemand, alors que God est un masculin singulier en anglais. Les premières constitutions, notamment celle de Philadelphie, évoquaient le fait que, précisément, les États-Unis s'en remettaient à Dieu. Et tous les grands discours des grands présidents américains, quand il y a une catastrophe, c'est « Dieu va nous aider ». Ça, c'est encore entendu au moment où les Twin Towers sont tombés. Ça s'est réentendu dans la bouche d'Obama après les incidents de Boston, là, quand il y a eu, au moment du marathon de Boston, deux incidents assez graves. C'était encore un recours à Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui instaure les États-Unis dans une mission universelle. Et c'est ce qui leur permet aussi de justifier, donc ça n'est pas sans incidence sur la vie ordinaire, de justifier leur budget militaire.
On pourrait les comparer à l'islam. Il y a des points communs entre la religion protestante à l'américaine et l'islam?
Non, parce qu'il y a une vie juridique et constitutionnelle aux États-Unis qui n'existe pas en islam. En islam, l'autorité religieuse est une autorité politique, ce qui n'existe pas aux États-Unis. Mais vous ne pouvez pas vous faire élire président si vous n'êtes pas d'une confession bien déterminée, et plutôt une confession protestante. Le seul président catholique qui n'a pas tenu trop longtemps puisqu'il a été assassiné à Dallas, c'est Kennedy. C'est l'Irlandais.
Mais oui, on aurait du mal à voir un président athée. C'est quasiment impossible.
Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible, ne serait-ce que parce qu'il prête serment. Et il prête serment en certifiant que c'est bien devant Dieu qu'il prête serment. Si vous avez dit dans la campagne électorale que vous n'y croyez pas, ça pose de sérieux problèmes.
Alors, c'est simplement Philippe Christel, on va dire aux auditeurs, vous arrivez, et puis on vous dit bonsoir, Philippe.
Bah merci, je fais ça très discrètement pour ne pas perturber, c'est malin.
Perdu, bébé. Jean-François Gauthier, vous avez un chapitre qui est le retour du messianisme juif. Alors là, j'avoue que j'ai ayant peu de connaissances dans le judaïsme, c'est quoi exactement? Est-ce que ça va être l'héritier, quelque part, de ce qui va devenir le sionisme et le le judaïsme moderne?
Alors ça s'est fait en plusieurs étapes. Il y a eu une étape dont les juifs se méfient beaucoup, c'est la grande aventure de Sabbatai Sevi, donc vers les années 1650, par là, 1648, 1650, entend un soir des voix, il reconnaît la voix de Dieu, il le nomme, et il va voir le rabbin de Smyrne, où il habitait, pour le lui raconter. Mais dans la tradition judaïque, surtout après l'apparition du rabbinat, ça veut dire qu'il se prend pour le Messie. Et il a donc été mis dehors de la communauté juive de Smyrne. Il est allé se promener, il est arrivé à Gaza. Et il raconte la même histoire au rabbin de Gaza. Et le rabbin de Gaza se dit que son histoire est quand même étrange. Il se passe quelque chose, ça n'est pas indifférent. Il lui fait passer deux, trois choses qu'on appellerait aujourd'hui des tests. Et pour lui, pas de doute, c'est effectivement le Messie qui arrive, donc ça veut dire la fin des temps. Et il convoque, il prévient d'autres rabbins, et il y en a trois qui se mettent en méditation pour essayer de comprendre si... Mais il y a des foules qui viennent depuis les synagogues des pays nordiques, de France, d'Espagne, d'Europe centrale, et qui convergent vers Smyrne, où... Sabbatai Sevi se rend. Quand il arrive à Smyrne, le rabbinat s'excuse en grande pompe. Bon, effectivement, on n'avait pas compris. Vous êtes effectivement le Messie. Et la marche se poursuit vers Constantinople. Et là, ça se passe un peu différemment, c'est-à-dire que le calife... on trouve que la manif a peut-être des côtés un peu rigolos, mais son gendre pas du tout. Il fait saisir Sabbatai Sevi et il lui donne le choix, qui était un choix relativement clair, donc il était forcé de se déterminer, soit il se convertissait à l'islam, soit on lui coupait la tête, et il a préféré la première solution à la seconde. Donc il s'est converti à l'islam. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que tout ça a été interprété, et interprété théologiquement, par une partie des suiveurs, par une partie de la communauté juive. S'il se convertit à l'islam alors qu'il est le Messie, c'est parce qu'il doit descendre au fond du fond. Et c'est une fois descendu au fond du fond qu'il va effectivement adopter son rôle de Messie, et la fin des temps est pour bientôt. Et cette tradition existe toujours en Turquie. Et le plus étonnant, c'est que plus des deux tiers du personnel diplomatique de haut rang turc fait partie des descendants, au moins idéologiques, de Sabbatai Sevi. Et jamais vous n'entendrez dans la diplomatie turque un mot à propos d'Israël. Mais alors quand même, bon, les rabbins ont été rendus méfiants avec cette histoire, parce qu'ils ont constaté que, bon, sur l'essentiel, ils s'étaient trompés, et notamment une prophétie n'était pas accomplie, c'est que le vrai Messie se rend à Jérusalem et réunit les tribus dispersées, ce qui ne s'est pas passé, donc c'était un faux. Alors il y en a eu deux ou trois autres, dont le rabbin Jacob Frank. Et là, bon, il y a eu une aile un peu plus dure du mouvement judaïque qui s'est dit, bon, il faut quand même s'occuper sérieusement des choses. D'abord, il n'y aura pas de Messie désigné sans qu'il y ait une entente parmi les autorités rabbiniques. Et deuxièmement, il faudrait peut-être s'occuper de récupérer des terres là où le Messie doit effectivement retrouver les tribus, c'est-à-dire en Israël. Et à la fin du XIXe siècle, donc le Congrès juif mondial s'est réuni, il y avait des tensions, alors Theodor Herzl, pour éviter les tensions, notamment avec les puissances occupantes de la Palestine, c'est-à-dire l'Angleterre, avait proposé l'Ouganda. On va récupérer les terres en Ouganda et Bon, à l'époque, il n'y avait pas Amin Dada, donc personne n'y voyait de mal.
Il n'y avait pas de danger, quoi.
Mais, mais ça ne convenait pas, et après la mort de Theodor Herzl, les opérations donc, étaient plutôt dans le sens de récupération de terres en Israël. Et bon, avec la déclaration Balfour, ça a pu se faire à partir de 1917, la banque Rothschild y a participé, et contrairement à ce qu'on dit, la présence hébraïque officielle en Israël ne date pas de 1948 et de l'Exodus, mais date de bien avant, puisque bien avant, des terres étaient achetées et le projet était en route.
Pourtant, on nous a toujours présenté ça comme un peu une sorte de projet laïque, le projet sioniste.
Mais le projet sioniste, c'est quand même la condition pratique de la réalisation de la promesse divine. Le Messie viendra en Israël et rassemblera les tribus. Eh ben, on va y être pour l'attendre.
Ouais, mais ils sont logiques. Ils sont logiques avec eux-mêmes.
Alors, mais avec un problème. Alors là. Qui n'est pas que annexe, c'est-à-dire qu'en Israël, il y a deux types de tendances. Il y a une tendance, alors formée à l'européenne, qui aimerait bien que ce pays ait une constitution, il n'en a toujours pas, et que ce soit...
Qui est la tendance minoritaire maintenant, aujourd'hui
Non.
Non ?
Non.
Non.
Et puis, il y a la tendance rabbinique, qui est donc plutôt théocratique. Il n'y a pas besoin de constitution, puisque, comme dans l'islam, la loi est divine. Et c'est à partir de ça que nous avons à penser nos problèmes et à gérer nos difficultés. Et que faire quand il n'y a pas d'accord sur ce qui constitue un pays comme pays ? Vous avez deux solutions, soit la guerre civile, soit la guerre extérieure. Et quand vous ne voulez pas de la guerre civile, ben vous menez la guerre extérieure, ce qui permet de faire taire une grande partie des conflits internes. Ce qui...
Ça, vous dites, il n'y a pas que eux qui n'ont pas de constitution, vous dites qu'il y a aussi l'Angleterre, ils ont ce point commun avec...
L'Angleterre n'a pas de constitution, effectivement, elle a un Bill of Rights, une déclaration de droit, et pour le reste, le chef de l'État est chef de l'Église anglicane.
Chef de l'Église, voilà. Alors ensuite, il y a deux gros morceaux, c'est le XXe siècle, et il y a deux idéologies qui forcément vont marquer l'histoire, c'est le communisme et le national-socialisme. Alors quand on fait un livre, Jean-François Gauthier, de 250 pages, comment on évalue la place qu'on va donner à un morceau de notre histoire contemporaine qui est énorme? C'est pas facile, surtout par exemple le communisme. Vous avez été de la Russie jusqu'à la Chine communisme.
Oui, pour montrer que le communisme chinois était très, très différent du communisme russe. Le communisme russe a été quand même relativement marqué par l'orthodoxie. Ce qu'il faut dire, alors c'est plusieurs choses. La première, on a beaucoup dit que le communisme, enfin le marxisme et le communisme qui a été son expression pratique, a été une religion laïcisée. Et là, je crois qu'il faut faire quand même assez attention. Il y a un schème qui a été repris, c'est le schème général, qu'on peut appeler un mythe d'ailleurs, celui du sens de l'histoire, avec un principe qui permet d'expliquer le début, le déroulement et la fin. Et il y a effectivement un principe chez les marxistes pour expliquer le début, le déroulement et la fin, c'est celui de la lutte des classes. Et ça fonctionne, c'est pas par hasard si c'est né en Angleterre, ça fonctionne comme une machine à vapeur, vous avez une source chaude, une source froide, et c'est le conflit des deux sources qui diffuse l'énergie et permet la création du mouvement. C'est très romantique, ça, hein. Vous trouvez la même chose dans les partitions de Schumann, dans les oppositions de ces deux personnages musicaux que sont Eusebius et Florestan. Schumann fonctionne comme ça, avec ces deux sources-là. C'est la marque du 19e siècle, c'est la machine à vapeur. Mais ça va quand même se développer, évidemment, de manière très très particulière, après la prise du pouvoir... Bon, celle de 1905 qui a échoué, mais celle de 1917 qui a réussi avec les troupes de Lénine. De quoi s'agissait-il ? Il s'agissait de dire que grâce à la révolution prolétarienne, suivie de la dictature du prolétariat, on allait supprimer le conflit qui est fondateur du sens de l'histoire. Et donc, quand on aura supprimé le conflit fondateur du sens de l'histoire, ben, il n'y aura plus d'histoire. Et ça sera une société édénique, comme peuvent en proposer les Mormons, les Adventistes du septième jour, et, bon, qui au fond, ont les mêmes espérances. Et le communiste de base, ou le fonctionnaire du soviet, quel est son rôle ? Eh bien, son rôle, c'est de faire en sorte qu'on puisse incarner dès aujourd'hui ou demain, à la limite après-demain, ce qui est le sens même de l'histoire, c'est-à-dire la fin de la lutte conflictuelle entre le capitalisme, et le capital et le prolétaire. Et on voit ce type de mythe structuré comme ce dont parlait Joachim Flore, c'est-à-dire que l'histoire présente tire son sens d'une sorte de reflux de sa vérité, et sa vérité est en devenir. Et on ne peut pas dire, malgré cela, que le communisme est une religion laïcisée. Dans une religion laïcisée, il y a des officiants, il y a des cultes, il y a des rituels, il y a des vérités qui sont des vérités eschatologiques. Et quand à la phase terminale, ce sera l'arrivée du paraclète, c'est-à-dire l'arrivée de l'esprit ou l'arrivée du Messie. Dans le communisme, pas du tout. Dans le communisme, il n'y a pas d'intervention extérieure. Ce sont les hommes qui fabriquent leur histoire. Et pour ça, ils sont très matérialistes, hein, et pas spiritualistes du tout. Bon, sauf dans les périodes graves, on entendra Staline au moment du siège de Stalingrad, précisément. Donc, sa ville de campagne, en quelque sorte, ouais. a invoqué des héros comme Donskoy ou... les vieux héros de l'orthodoxie qui sont appelés au secours pour inspirer le peuple russe. Mais bon, donc il y a un schème qui est commun avec les religions monothéistes, mais je crois qu'il ne faut pas dire que c'est une religion. Alors maintenant sur le sens de la chose. Bon, évidemment, on en parle après l'échec du communisme historique, mais une anecdote assez significative. Il y a une université à Berlin qui date du début du XIXe siècle, l'université Humboldt, où ont enseigné Fichte, Hegel, Feuerbach. Bon, il y a eu du beau linge.
Il y a eu du beau monde, ouais.
Au XIXe siècle. Et... En haut de l'escalier d'honneur de cette université Humboldt, il y a un portique avec, en grosses lettres de bronze, la 11e thèse de Marx sur Feuerbach. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde. Il nous faut maintenant le transformer. Et donc c'est en lettres de bronze, et ça a été posé donc en 1948-1949, après que les soviétiques aient pris sous leur aile la partie est de l'Allemagne. Et après 1992, quand les deux Allemagnes se sont politiquement réunies, un philosophe ou un lettré, humoriste aussi, probablement disciple de Démocrite, a mis des petites plaques sur toutes les contremarches de cet escalier qui mène à la 11e thèse de Feuerbach, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il faut maintenant le transformer. Et les petites plaques portent toutes le même texte, attention à la marche, attention à la marche, attention à la marche. Et c'est une leçon, c'est-à-dire quant à la vérité de l'histoire, dans l'escalier qui mène vers la vérité de l'histoire, il faut toujours faire attention à la marche.
Vous êtes toujours sur Radio Courtoisie, on reçoit Jean-François Gauthier pour son livre « Le sens de l'histoire ». Je disais qu'il y avait les deux grosses idéologies, il y a le communisme et le national-socialisme. Alors on les a souvent comparés et on a dit beaucoup de bêtises là-dessus. Est-ce que c'est la même chose ?
Alors il y a un schème commun. C'est-à-dire que dans le national-socialisme, il y a aussi un sens de l'histoire. Et un sens de l'histoire qui est en plus marqué par le millénarisme. C'est-à-dire que l'histoire est celle des Aryens, et je vous la garantis, pour 1000 ans. Bon, il va manquer quand même 987 années oui, mais ça... au programme. C'est quelque chose qui a été très, très important dans le... l'idéologie pratique qui s'est développée dans le national-socialisme, au moins jusqu'en 1941-42, après je crois qu'il y a eu quand même un peu de lassitude à cause des revers militaires, mais il y avait d'une part le fait que le sens de l'histoire était déjà là, et il ne faut pas oublier que ces gens sortaient de la République de Weimar et qu'ils sortaient aussi de l'effondrement mais complet d'une économie après la crise américaine de 1929. On était à arriver à avoir une valise, une brouette de billets de banque pour aller acheter une baguette, enfin l'équivalent d'une baguette, puisque seul le Français prenait de la baguette roulée dans son béret, alors que l'Allemand lui prenait un pain dans son casque à pointe. Mais je veux dire, c'était arrivé à un délire absolu, avec un chômage qui était complètement délirant. Et le message salutiste, alors qui n'est pas venu comme ça d'un coup, hein, c'est-à-dire que le pan-germanisme, c'est quelque chose qui est né avec les disciples de Hegel au début du XIXe siècle, et dans la filiation aussi de Goethe. Donc ça n'est pas quelque chose qui est né en 1933. Il ne faut pas à ce propos raconter n'importe quoi. Alors qui était opposé au national-socialisme pour revendiquer le fait que l'histoire est toujours un risque et que l'histoire n'a jamais de sens prédéterminé? Eh bien, c'était la révolution conservatrice. Qui est très critiqué aujourd'hui par les gens de gauche, mais parce qu'ils ne les ont pas lus. Et alors évidemment, il y a quelque chose de désespérant dans la révolution conservatrice pour la gauche moderne, c'est qu'elle précise justement que l'histoire n'a pas de sens et qu'elle se gagne au combat, au jour le jour, à la valeur, et qu'il ne faut pas espérer quoi que ce soit de l'universel.
Grégoire Gambier, peut-être une question avant qu'on voie la conclusion.
Tout à fait. Tout d'abord, bravo et merci pour cet essai, Jean-François Gauthier, hein, toujours érudit, brillant, passionnant. Je prends la balle au bon, je saisis sur la révolution conservatrice. Vous disiez, il y a des pages très intéressantes. Je reviendrai sur la dichotomie entre Athènes et Jérusalem, puisque c'est ce qui structure tout l'ouvrage et peut-être parfois en grossissant le trait. Mais là, pour revenir sur l'histoire se fait maintenant, au jour le jour. Il y a notamment des passages sur Rome. Vous dites le temps présent prime sur tout le reste. Lui seul est le lieu des urgences. La philosophie de l'histoire, de la culture gréco-romaine est vite résumée, donc c'est bien pour les auditeurs, je vous cite, hein, deux points, seule vaut l'action, elle seule par ses vertus charpente le devenir. Donc tout est dit, ce n'est pas étonnant que ce soit les penseurs de la révolution conservatrice allemande qui fassent écho aux vieux romains, à la vertu romaine. Donc peut-être pour les auditeurs de Radio Courtoisie, revenir là-dessus sur les deux piliers de la religiosité romaine, donc pietas et fides, parce que ça peut visiblement, ça a encore un écho aujourd'hui, y compris en termes politiques et géopolitiques.
Alors, on va reprendre où j'avais laissé à propos de Thucydide. L'histoire est pleine d'imprévus. On essaye quand même d'anticiper et on a deux types de référents. Le premier référent, c'est évidemment la cité dans laquelle on est né, avec son héritage. C'est-à-dire son héritage monumental, son héritage institutionnel, son héritage cultuel également. Hein, les dieux d'Athènes ne sont pas les dieux de Sparte, qui ne sont pas les dieux de Thèbes, qui ne sont pas les dieux de Pétra. Et la seconde chose, c'est pour s'en sortir individuellement ou collectivement, dans un monde qui n'a pas de sens prédéterminé, et dans leur mentalité, ça n'est pas une thèse négative. Il n'y a pas l'affirmation du fait qu'il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens du tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de le dire, tout le monde le sait. Bon. Et comment s'en sortir ? Eh bien, par l'affirmation de valeurs. Et c'est l'exercice de ces valeurs qui est proposé aux citoyens pour être l'atelier de son devenir. Que ce soit un devenir familial ou que ce soit un devenir professionnel ou un devenir au service de l'État, par exemple comme soldat, mais ça peut être aussi comme prêtre, de tel ou tel lieu. Il y a plusieurs manières de servir la cité et donc plusieurs types de perfection possibles. Et c'est pour ça qu'il y a autant de dieux. C'est-à-dire que quand Rome s'est développée, il y avait plusieurs cérémonies dans le quartier. Il y avait d'abord le dieu du quartier, qui n'était pas celui de l'arrondissement d'à côté. Et puis il y avait des cérémonies professionnelles, c'est-à-dire qu'il y avait le dieu des cordonniers qui ne s'appelait pas encore Saint Crépin, il y avait celui des artiseurs qui n'était pas encore Sainte Barbe, enfin etc. Il y avait des patrons de corporations qui étaient une manière de désigner un type de perfection dans la vie individuelle et collective à propos de l'exercice de telle ou telle fonction. Alors, il y avait des cérémonies plus importantes à Rome dans lesquelles l'essentiel des fonctions était représenté. Alors, cela, c'était les triades capitolines qui intervenaient, c'est-à-dire les représentants de Jupiter, de Mars et de Quirinus, c'est-à-dire de la fonction juridique et religieuse, de la fonction guerrière avec Mars ou de la fonction productive avec Quirinus. Et les trois étaient regroupés quand il s'agissait de cérémonies importantes pour l'Empire lui-même, enfin pour la République d'abord, et pour l'Empire après 21, c'est-à-dire après Auguste.
Alors malgré tout, tout n'est pas si simple. Il y a beaucoup de pédagogie dans la fresque immense que vous proposez dans cet essai, mais il y a au moins deux éléments sur lequel j'aimerais qu'on se penche un petit peu. Le premier, le plus contemporain, sur cette espèce d'affrontement entre les religions du livre et les religions anciennes, c'est malgré tout quelqu'un qui est plutôt catholique, c'est le moins qu'on puisse dire, Bastien Thierry, à son procès, qui a la formule célèbre, en tout cas très connue sur cette antenne, il n'y a pas de sens de l'histoire, il n'y a pas de vent de l'histoire, il n'y a que les passions des hommes, enfin la volonté des hommes, bonnes ou mauvaises. Et donc là, on voit bien que ça fait référence plutôt à ce que vous décriviez, enfin des religions anciennes. Or, il est dans le temps et c'est un catholique de toute évidence, d'ailleurs très exalté dans sa mission. Donc il y a des résurgences, on voit bien dans un camp comme dans l'autre. Et même la façon dont, parce que l'essai n'y répond pas vraiment, comment finalement l'Europe est devenue chrétienne, si c'était aussi manifeste. Et donc pour revenir sur, alors peut-être pas Aristote, mais au moins vous avez parlé d'Alexandrie.
Les fameux sept siècles où s'est un peu mélangé.
Non, dès l'origine avec les cultes mystiques.
Les sept siècles.
L'époque hellénistique. L'époque hellénistique que vous avez évoquée avec Alexandrie, bien sûr, même avant même la disparition d'Alexandre. Enfin, on voit bien que c'est, enfin plutôt à l'époque d'ailleurs, effectivement des Séleucides, il y a une orientalisation de l'art. Une mixité, on va dire, entre grecs et orientaux qui semble, en tout cas a posteriori, préparer certaines jetées des ponts, en tout cas qui vont permettre, enfin c'est facile de le dire a posteriori, mais qui sont analysées comme ça.
Oui, alors, on est obligé, quand on parle de l'histoire des idées, de les résumer, de les condenser à gros traits. Le catholicisme populaire n'a jamais été monothéiste. Les clercs, les théologies ont été monothéistes. Le catholicisme populaire en Europe a toujours été polylâtre, c'est-à-dire a toujours eu plusieurs dieux. Quand vous alliez à Lourdes il y a une cinquantaine d'années, ça m'est arrivé, j'avais une dizaine d'années, dans la basilique la plus laide, Le truc du 19e là, qu'on a essayé de rincer la semaine dernière avec des eaux fluviales irakitéennes. Il y avait une multitude de saints. Et comme je m'y ennuyais un peu, bon, à l'époque, il y avait à la radio ce qu'on appelait le hit parade, c'est-à-dire le classement des chansons. Et puis je me suis dit, tiens, je vais compter les cierges pour faire un hit parade. Et dans le hit parade, c'était pas le crucifié qui gagnait le truc, hein. Pas du tout, c'était Saint Antoine, Saint Rita et Saint Joseph. C'est eux qui avaient le plus de cierges. Et Saint Joseph, alors c'était particulièrement attirant, parce que alors c'était le pouce du pied droit qui était systématiquement embrassé par les pèlerins. Bon, et le bronze du pouce était quand même très très usé, ce qui veut dire que ça s'était pas fait avec trois ou quatre clampins qui passaient. Bon, c'était une tradition qui avait quelque temps. C'est le signe même de la polylatrie, de la religion populaire. Il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs types de perfection, il y a plusieurs types de fonctions divines. Pour saint Antoine, ça servait à retrouver son trousseau de lait ou je sais plus quoi. Saint Rita, c'était pour la fécondité de la petite sœur. Enfin bon, chacun avait sa fonction. Et dans les rituels ruraux qui étaient encore assez vivaces, il y avait ce genre de procession pour le saint local dont on portait la statue, pour lequel il y avait des offrandes de pain, etc. Et ça a survécu encore dans les pardons bretons, dont il existe quelques exemplaires. Et le plus étonnant, c'est que, bon, dans la région de Saint-Nazaire, ou de Lorient, ou de Brest, où il y a quand même des arsenaux importants, donc une CGT puissante, et ben le délégué CGT local allait voir le recteur en lui disant « c'est quand même moi qui vais porter la bannière, il n'est pas question que ce soit un clampin bon. ». Alors ces types-là avaient des choix politiques de telle ou telle direction, mais l'honneur du village, c'était quand même quelque chose qui était attaché à la polylatrie. Alors, bien sûr, on est obligé, dans une histoire des idées, de tailler à grands traits avec ceux qui produisent les idées, c'est-à-dire les philosophes ou les théologiens, mais il est évident que dans la culture populaire, ça ne fonctionne pas de cette manière-là.
Vous terminez votre livre par quatre penseurs, Jean-François Gauthier, Nietzsche ou Junger, on en a parlé tout à l'heure avec la révolution conservatrice, Deleuze et Paul Venn, pourquoi ?
Alors parce que...
Vous avez fait un choix, c'est-à-dire que vous auriez pu en trouver.
On pouvait mettre sur rang, on pouvait mettre tout un tas de gens. Pourquoi ? Ben parce que bon, Deleuze, on s'y attendait pas.
Ah oui.
Ah non. Oui, Deleuze, c'est pour ça que je vous pose la question.
Notamment Deleuze.
Mais quand vous lisez Deleuze de près, vous apercevez qu'effectivement, pour lui, il n'y a pas du tout, alors vraiment pas du tout, de sens de l'histoire. Hein. Et sa philosophie politique, elle est tout à fait étonnante parce que il ne cesse de répéter que l'action politique est une action territoriale. Ça se joue dans telle condition, dans telle circonstance, sur tel terrain. Et il faut voir si sur ce terrain, après l'action, on a un peu plus de pouvoir ou pas. Et là-dessus, il est radical. Il était interviewé par Claire Parnet, il y a plusieurs émissions qui sont passées, je crois que c'était à Arte. Mais on les trouve par Internet. Parnet lui dit, mais bon, qu'est-ce que vous pensez de tout le travail de révision qui a été fait à propos du communisme ? Il lui dit, mais ça n'a aucun intérêt, c'est les trucs qu'on connaît depuis longtemps, on savait parfaitement que... Staline est un dictateur, que ceci, que cela. L'important, ça n'est pas l'histoire telle que la font les intellectuels. L'important dans l'histoire, c'est ce que le font les acteurs avec les pouvoirs qu'ils prennent. Et chez lui, ça va assez loin. Pour tous les juristes aujourd'hui, c'est la loi qui donne du sens. Et Deleuze disait systématiquement, mais la loi, ça n'est rien. La loi, c'est la règle du jeu, comme au jeu d'échecs. Mais ce qui fait les échecs, c'est ceux qui jouent. autrement dit, le sens de la loi, il est dans la jurisprudence et pas dans la loi.
La loi est un rapport de force à un moment donné, historiquement et territorialement situé. Oui.
Dans son établissement, oui, mais après, il est applicable ou pas. J'ai peut-être par goût de la provocation, mais aussi par...
C'est très étonnant, franchement, vous connaissant un peu.
mais aussi parce que ce serait dommage de passer à côté, il était important de préciser cela. Maintenant, alors pour Paul Vane, qui était un ami de mon maître Gerfagnon, j'ai beaucoup appris dans ses traités et notamment dans ses travaux sur la naissance du christianisme. Il insiste bien sur le fait que le christianisme était polylâtre à Rome dès ses débuts, quoi. Autrement dit, c'est un message qui peut être considéré du côté de son vêtement théologique chrétien, mais il y a quand même là aussi une continuation du polythéisme et de la mentalité polythéiste. C'est pour ça qu'il est toujours très, très difficile d'en parler et de faire des condamnations à grands traits en disant « bon, le christianisme à la cave ». Alors, il faut se méfier, non, parce que les caves du Vatican sont pleines de trésors et de tableaux d'honneur.
Oui, moi ça ne me dérangerait pas d'être dans les caves du Vatican. Merci Jean-François Gauthier. Je rappelle aux éditeurs, c'est Le sens de l'histoire, une histoire du messianisme en politique, et c'est aux éditions Ellipse. On va faire juste une petite pause et puis on va retrouver Philippe Christel pour son actualité européenne. On vous a pris 2 ou 3 minutes, mon cher Philippe, mais on va se dépêcher. Pas de problème. Pour cette deuxième partie des chroniques de la vieille Europe. Mon cher Philippe, on va commencer par où? Le nord, le sud, l'ouest,
l'est. Le grand milieu.
Bon, ben non, voilà.
Je pense que le sujet sur lequel je voulais appeler l'attention des auditeurs depuis ces 4 semaines était, me semble-t-il, le sujet le plus important, c'est l'accroissement de la tension entre Washington et Moscou. Alors, pas petite touche, hein, par touche subtile. Je vais essayer d'en donner quelques éléments, mais c'est vrai que quand on prend les différents éléments et qu'on les met bout à bout pour essayer de dessiner un tableau plus vaste, on se rend compte qu'effectivement les coups ne sont pas feutrés et se succèdent les uns aux autres. Alors on le sait, bien évidemment, une première ligne de fracture consiste dans l'opposition sur le dossier syrien. Bien évidemment, tout le monde a en mémoire la photo de ce G8 parfaitement raté, puisque sans cravate, ce qui donc ne suffit. Enlever la cravate ne suffit donc pas à réussir un bon séminaire. Tous les consultants du monde savent ça. En tout cas, la conséquence, c'est que, à l'évidence, l'obstination et en tout cas l'opposition de Vladimir Poutine n'a pas pu faire fléchir l'ensemble de ceux qui se trouvaient là-bas. Donc on va pas refaire le débat sur le soutien de la Russie et la Syrie. On en connaît les raisons. On en partage d'ailleurs certaines. Le deuxième élément qui est presque anecdotique, c'est l'affaire de ce jeune informaticien américain, Edward Snowden. Donc pour les auditeurs le savent, c'est une sorte de deuxième Wikileaks avec cet informaticien qui dévoile à la face du monde que les Américains, et ce depuis fort longtemps, espionnent à peu près tout ce qui se fait en termes de communication à tout niveau, dans tout pays, dans tout système.
C'est assez intéressant l'affaire Snowden parce que elle révèle beaucoup de choses. La première chose qu'elle révèle, effectivement, c'est elle révèle le poteau rose. On pourrait dire que, ma foi, si on ne le savait pas, on devait bien s'en douter. Ce qui est intéressant, c'est que dans le détail du mécanisme, c'est surtout l'adossement ou en tout cas la connivence de ces grandes entreprises qui font fantasmer tous les ingénieurs et tous les clients du monde occidental, à savoir bien évidemment les Google, les Apple et tout ce que vous voulez, y compris les opérateurs de télécom qui sont... alors, contraints contraints d'être alignés ou volontaires pour l'être, mais qui sont totalement main dans la main de l'establishment politico-militaire des États-Unis.
Si ça va quand même. C'est encore plus drôle quand on connaît le côté, oui, la philosophie libertaire d'origine californienne des plus connus.
Oui, enfin bon, je vais y revenir, mais bien évidemment. Et c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, mine de rien, ça en remet une couche, si j'ose dire, sur cette image de soft power que veut effectivement promouvoir les États-Unis. Ces États-Unis qui n'arrivent pas à s'en sortir de la fermeture de Guantanamo. Obama fera probablement deux mandats sans avoir réussi fermer Guantanamo. Alors, vous me direz, bon, des présidents élus qui ne font pas ce qu'ils avaient promis.
On avait vu les images où il avait signé le décret.
Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est que aujourd'hui, à l'évidence, les pays qui protègent la liberté d'expression, qui fait partie d'un des droits les plus fondamentaux et assuré jusqu'alors par le grand frère américain, sont justement ceux qui s'opposent à la censure que les Américains veulent obtenir avec ces tracks hier sur Julian Assange, aujourd'hui sur Edward Snowden. Le troisième élément, c'est que, vous savez, on est moins insolent quand on est sûr de se prendre une bonne baffe. Pardonnez-moi sur cette maxime qu'aurait pu méditer Clément Méric, oui. Mais ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si les Américains sont à ce point attaqués. Pensez que Hong Kong a refusé les injonctions américaines. Alors certes, Hong Kong n'aura échappé à personne, n'est pas loin de du grand frère chinois, mais voilà donc toute une série de... Hong Kong refuse de céder aux injonctions américaines et permet donc l'exfiltration de Snowden. Alors aujourd'hui à Moscou, on parle d'une partance pour l'Équateur, mais enfin, à l'évidence, l'aigle américain se laisse tirer quelques plumes. Troisième élément de tension qui me paraît intéressant et qui a été assez peu relevé, me semble-t-il, vous avez suivi peut-être le discours d'Obama à Berlin. Alors il y a une histoire dans ce discours puisque Obama avait déjà sollicité Angela Merkel il y a un certain nombre d'années, 6 ou 7 ans, pour faire son premier discours à Berlin, discours qui lui avait été, la porte de Brandebourg lui avait été refusée sous l'argument que seuls les présidents américains élus pouvaient prétendre à faire leurs emplettes et leurs numéros de charme sur la Pariser Platz. Et là cette fois-ci, ça y est, donc Obama a pu intervenir sur...
Il n'y avait pas eu d'autres visites officielles depuis...
Le discours d'un Américain sur la porte de Brandebourg, c'est réservé à un président élu.
Ah oui, mais je pensais qu'il était venu déjà.
Du coup, il n'a pas Brandebourg, il l'a fait au Tiergarten, ou je ne sais plus. Bon, c'est bien le Tiergarten aussi. Mais c'est moins symbolique. Donc, je ne vous fais pas l'article sur le discours de JFK. On se rappelle moins du discours de Ronald Reagan en 1987, devant ce même mur de Berlin, qui est avec cette phrase « Monsieur Gorbatchev, abattez ce mur, ouvrez cette porte ». Tout le monde s'était d'ailleurs moqué de Ronald Reagan, qui en fait n'était pas si en avance ou si en retard que cela. Et là, le discours
c'était une menace de sa part, je crois.
Ah bon, vous croyez?
Vraiment. Non, mais il faut lire ses mémoires.
Le messianisme historique, finalement.
Et donc,
c'est pas ça.
Et donc là, aujourd'hui, le Obama nouveau nous a refait. Il nous a fait un joli flop. Et donc, la thèse centrale, c'est toujours sur sa doctrine anti-nucléaire, c'est la volonté, une haine
énième volonté de réduire les arsenaux militaires. Les arsenaux militaires qui sont tenus donc à 90 ou 95%, c'est le nombre de têtes d'ogives nucléaires n'est quand même pas le chiffre le mieux, le plus transparent du monde. Mais enfin, grosso modo, 90 à 95% des ogives sont du côté américain ou du côté russe. Donc, bien évidemment, c'est un tropisme que l'on connaît chez Obama. Là aussi, ça fait partie de son bagage idéologique d'abord, parce que ça fait partie de sa formation que de professer une espèce de pacifisme dénucléarisé, tropisme qui est d'autant plus soutenu par le fait qu'aujourd'hui, et notamment avec la technologie du bouclier antimissile, on arrive sur des technologies militaires non nucléaires, mais dont la force de dévastation correspond à la technologie nucléaire. En gros, c'est facile de demander aux collègues d'abandonner la technologie nucléaire quand soi-même, on peut abandonner la sienne parce qu'on sait la remplacer par une autre qui est aussi puissante et que l'autre ne maîtrise pas encore. La volonté d'Obama n'a évidemment soulevé que des sourires polis. Et donc les Russes, les premiers, se sont gentiment émus du fait qu'ils ne voyaient pas pourquoi ils seraient les seuls avec les Américains à dénucléariser. Au fur et à mesure qu'on multiplie les traités bilatéraux de désarmement entre les États-Unis et la Russie, on ne s'occupe pas de la Chine, qui elle continue à accroître son potentiel, et une des hantises quand même des Russes, c'est que la Chine continue d'augmenter son arsenal et puis aille chercher la parité avec Moscou. Les seconds, qui ne sont pas non plus très fanas, ce sont bien évidemment les Pays-Baltes, qui se sont discrètement émus du fait que un des États-Unis qui dénucléarise, ça les inquiète plus que ça les rassure. Alors la France s'est exprimée, hein, le ministre Le Drian a rappelé qu'on avait quand même publié un livre blanc qui disait qu'on avait envie de continuer. Hein, voilà. Donc,
c'est dommage,
alors nous,
ça intéressait personne ce livre blanc.
On en a moins de 30 ans. Mais ce qui est intéressant quand même, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un an et demi, quand Obama avait déjà fait cette proposition, il s'était trouvé dans la classe politique française un monsieur pas très influent dans les cercles diplomatiques qui s'appelait Alain Juppé, qui avait trouvé que c'était pas idiot quand même éventuellement d'abandonner cette dissuasion nucléaire. Bref, voilà, sans épiloguer, voilà un autre sujet sur lequel bien évidemment les Russes, qui ont toujours en travers du gosier les interventions militaires en Irak, en Afghanistan et en Libye, pour ne parler que de la dernière, voilà un élément donc de tension. Je ne sais pas si vous avez vu que même sur le sujet afghan, les Américains commencent à imaginer pour de vrai de lancer des discussions officielles avec les talibans à Doha, donc la nouvelle métropole de l'Occident, et ceci en court-circuitant largement, bien évidemment, leur affidé, comment il s'appelle, le
Karzai.
Karzai, merci.
Oui,
le dernier exemple qu'on pourrait, alors si on voulait là, c'est très centré sur la différence entre l'opposition entre la Russie et les Américains. Un autre exemple qu'on pourrait citer, c'est les déclarations récentes de Vladimir Poutine, où là, qui vise davantage, on va dire, le camp occidental, avec toute la mauvaise perception que nous avons de ce mot, parce que nous savons, nous, à la Chronique de la Vieille Europe, que c'est aujourd'hui un néologisme qu'il faut bannir, mais s'exprimant à la fois sur à l'occasion de cette loi pour interdire l'adoption d'enfants russes par les pays ayant légalisé le mariage homosexuel et la possibilité d'adoption, mais également lors d'un tout récent discours à la Douma sur les risques, en gros risques et opportunités de la société multiethnique, Vladimir Poutine a été particulièrement ferme en réaffirmant la doctrine russe en la matière et en citant nommément les cas et les situations tout à fait ravagées de quatre pays, les États-Unis, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la France. Donc tout ceci pour dire, on aurait pu, enfin j'invite les auditeurs qui ont internet
bien,
et qui, oui les Belges sont très bien, oui il y a quelques-uns qui sont très bien, et j'invite les auditeurs que cela intéresse de se procurer ce très beau texte de Vladimir Poutine à la Douma. Donc voilà quelques éléments qui me paraissent révélateurs de ces montées de tension. une question, une observation ?
Non. Bah, non, les montées de tension, si on a bien compris la première partie de l'émission, c'est le moteur de l'histoire. Donc on s'en approche là, c'est ça, Philippe Christel ?
Probablement, on s'en approche. Autre sujet.
Allez-y, Philippe.
Autre sujet que je voulais porter à l'attention des auditeurs, c'est que on est, alors là, on parle plus d'une logique de fin de règne, mais je pense qu'il sera intéressant de. Je ne sais pas si la Commission européenne peut sombrer à l'occasion et des prochaines élections européennes, dont on peut légitimement attendre quand même des résultats intéressants. Pour ceux qui veulent en finir avec cet ultra-libéralisme étouffant, également avec cette ambiance de fin de règne sur la commission Barroso. Vous avez vu là une perte de nerfs assez étrange de Barroso, critiqué à la fois par Paris et Berlin, et pas pour les mêmes raisons. C'est quand même ça qui est assez extraordinaire. Et puis il y a un autre sujet qui divise largement les Européens, ce sont les négociations sur la Turquie. Alors la Turquie a beaucoup fait parler d'elle parce qu'évidemment avec les émeutes de la place Taksim, enfin il ne vous a certainement pas échappé que lundi dernier, le 24, les ministres des Affaires étrangères se sont de nouveau réunis pour essayer de trouver un compromis. Il n'y a plus que des recherches de compromis. Je sais pas comment. Je pense que les diplomates européens, je ne sais pas comment ils arrivent à vivre. Ça doit être la tension permanente.
C'est un métier où ils sont payés.
Je pense qu'ils arrivent à survivre.
Et à dormir.
Oui. Je me fais moins de soucis que ça, en fait. Et donc, l'idée est assez simple. L'idée, c'est de dire, est-ce qu'on ouvre un nouveau sujet, un nouveau chapitre dans les négociations avec les Russes ? Alors, je ne vais pas vous faire... Avec les Turcs, je ne vais pas vous faire les positions des uns et des autres. Il n'y a pas de grande surprise. Ce qui est intéressant, c'est que, dans ce cas-là, il y a toujours un type qui dit une énormité. Généralement, c'est le luxembourgeois. Donc là, il s'est pas loupé. Donc, c'est le luxembourgeois. Il s'appelle Jean Hasselborn. Hein. Donc, Hasselborn, comme un luxembourgeois. Et donc, il dit... Bon, alors c'est vrai, Turquie, c'est quand même compliqué, parce qu'il nous explique, la Turquie, c'est pas bien ce qu'ils font, c'est pas tip-top, quoi. Hein, mais bon, est-ce que vraiment... Alors il nous dit, ce pays est sorti des règles de l'état de droit, mais il serait risqué de condamner définitivement la négociation, bref, continuons. Alors, ce pays est sorti des règles de l'état de droit. Quand on pense comment ces mêmes personnes ont jugé les mesures de Viktor Orban régulièrement élus par le peuple hongrois et qui a impulsé toute une série de réformes qui sont et constitutionnelles et légales et pour lesquelles on a crié là aussi au détournement de l'état de droit, des valeurs de l'Europe et de je ne sais plus quoi. Je pense que là encore, il y a des comparaisons à faire et il y a un sens des proportions à observer. Il y a aussi là visiblement on est dans la théologie absolue de cette intégration européenne et il y a une novlangue qui s'applique vraiment aux uns et peu aux autres. Je pensais que c'était important aux auditeurs qu'ils aient cela en tête.
Parce que le luxembourgeois, en revanche...
C'est un pays de droit. Hein.
Non, puis surtout, il n'a pas eu de problème sur le comportement de François Hollande et de son gouvernement vis-à-vis d'une partie du peuple français, en termes d'état de droit. Si on veut.
Non, je ne vois pas.
Visiblement.
Non, je ne vois pas à quoi vous faites allusion.
Non, ça vous rappelle
quelque chose.
Oui, la façon dont sont réprimés les manifestants du Paris pour tous, etc. Vous étiez parti de la Turquie et des manifestations.
Oui.
Je me suis permis de reboucler la boucle.
Non, on n'a pas encore eu d'émotion luxembourgeoise sur les éventuels abandons de tout ou partie de l'état de droit en France.
C'est dommage que les émotions luxembourgeoises sont les meilleures.
Oui, c'est quand même les meilleures en ce moment.
Alors, puisqu'on parle du Luxembourg et que tout de suite on a cette image de la finance aveugle et vagabonde, et donc je vais traiter un sujet qui va avoir le don de vous exaspérer, mais c'est mon cadeau. Ça vous apprendra un
rapidement.
Oui, rapidement, s'il vous reste un peu
de
temps.
Évidemment, je le fais à la fin. Je voudrais quand même, parce que vous voyez, on parle beaucoup du sujet de l'exil fiscal. Bon. Et puis on est quand même dans un pays où on a quand même tendance à penser que bon, les riches étant de toute façon un peu coupables, ils sont d'autant plus coupables de s'exiler fiscalement et en plus ils veulent même pas contribuer à tout ce qu'on est en train de construire. Je voudrais appeler votre attention et l'attention des auditeurs sur le fait que l'exil fiscal me paraît être l'arbre qui cache la forêt et que la véritable inquiétude, et qui se confirme par les chiffres, ce sont les diplômés français. qui quittent le pays. D'abord parce que ces diplômés n'étant pas encore contribuables au sens foyer fiscal du terme, ils n'entrent pas dans les statistiques. Et deuxièmement, c'est qu'ils quittent le pays avant même de commencer leur vie professionnelle, puisque vous connaissez le principe de la grande école, qu'elle soit de management, de commerce ou d'ingénieur, c'est que vous avez un semestre, une année qui se fait à Shanghai, à Londres ou quoi que ce soit. Eh bien, la réalité aujourd'hui, c'est que ces gens-là ne rentrent pas. Ces gens-là ne rentrent pas, ces gens-là font leur premier travail dans le pays qui a accueilli leur dernière année d'études. Ils y trouvent un métier, ils y trouvent de l'expérience, ils y trouvent une rémunération d'ailleurs largement supérieure à celle que la France peut leur offrir. Avec tous les risques que cela a, c'est qu'ils y trouvent également femme ou mari, enfant, et donc avec une propension à être moins mobile pour rentrer et rapatrier toute la famille. Ce qui me paraît intéressant, c'est que premièrement, on a là, en termes strictement économiques, une perte sèche pour la France qui est absolument énorme, puisque ce sont en fait, on a le pourcentage, hein, c'est 16% d'une classe d'âge qui fait des études supérieures en général, et c'est dans les écoles de management, c'est 25%. Ça veut dire qu'un quart des gens qui sont nés en France, je ne sais pas, mais en tout cas qui ont suivi leur cursus primaire, secondaire, classe prépa, grandes écoles en France, finit par décider de faire sa vie professionnelle et la création de richesses attachées à l'étranger.
Après avoir coûté un bras aux contribuables.
Ouais. Après avoir probablement coûté un bras aux contribuables, je pense pas forcément
les sociologues,
beaucoup plus cher que celui qui a fait son.
Non, mais c'est quand même une partie du drame, parce que l'éducation est un investissement.
Mais bien sûr.
Et au moment où l'investissement peut commencer à rendre, ben non.
C'est-à-dire que le seul investissement qui serait a priori plus facilement créateur de richesse et donc plus rapide en termes de retour sur investissement, pardonnez-moi pour ces barbarismes, ben celui-là il s'en va. Heureusement pour nous, celui qui fait sa maîtrise de psycho, lui il reste.
Les sociologues aussi, non,
lui il reste. Ceux qui font également, qui veulent être prof d'éducation physique, hein, vous savez, hein, vous savez qu'on en forme chaque année autant qu'il y a de postes ouverts dans une carrière.
Des agrégés de gymnastique.
Donc ce qui est les agrégés de gymnastique, de GRS, de PS, parce que ça n'existe plus la gymnastique. Bon, ce qui est intéressant, je voulais mentionner ça, quelques éléments chiffrés. Le premier point de chute des ingénieurs, c'est la Suisse.
Ça, c'est bien.
Doublement du vol.
Donc, c'est là. Ça, c'est sérieux.
On reconnaît les ingénieurs.
Il faut les orienter.
Alors, plutôt qu'ils ont fait allemand, c'est la Suisse alemanique, je pense.
Ce qui est intéressant, c'est que. Enfin, ce qui est intéressant, mais qui ne surprendra personne, c'est que. Une partie, bien évidemment, de la décision se fait sur les niveaux de rémunération, et que, en gros, la France offre des niveaux de rémunération dans les grands groupes 20% en deçà de ce qui est comparable dans les pays européens, et que, pire que cela, c'est que les PME-PMI, c'est-à-dire celles qui ont le plus besoin de ces gens-là, celles qui peuvent fournir le plus d'expérience, et accessoirement celles qui font l'embauche proposent des postes qui sont 20% en dessous des postes des grands groupes, donc vous voyez l'écart avec les salaires à l'étranger. Donc voilà, pardonnez-moi pour ces considérations qui font un peu troisième fonction après toutes les passionnantes discussions que nous avons eues.
Je n'ai pas compris pourquoi on aurait été en désaccord avec vous.
C'est dingue, hein, comme ouais.
C'est tout de suite.
Parce que vous n'aimez pas la réussite. Vous n'aimez pas la réussite.
Allez-y, Philippe. Vous avez encore deux minutes.
Fini.
Là-dessus, justement, pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui ont dû être passionnés par ce dernier passage, surtout ceux qui ont des enfants étudiants. Hein,
qui viennent de choisir Sciences Éco, oui.
Ou Sciences Po, et puis ils ne savent pas quand ils vont faire des courses à Saint-Lazare.
C'est vrai aussi pour les infirmiers. Hein. Le désordre des hôpitaux français est tel qu'il y en a un paquet qui partent à Lausanne ou à Genève.
Alors, juste sur cet aspect fiscalité, donc l'Institut Choiseul vient de sortir justement un rapport, une note stratégique sur les politiques fiscales, et notamment, on va reparler d'histoire pour boucler, là encore, il a été démontré, alors bon, toutes charges confondues, hein, puisque le problème c'est la fiscalité, hein, un des problèmes en tout cas essentiels, c'est donc ils ont démontré qu'un esclave dans l'Antiquité pouvait conserver le quart de la valeur qu'il produisait pour lui, un cerf au Moyen-Âge, hein, dont vous avez tous fait l'école de la République, ou même chez les religieux c'était pareil, c'est quand même l'abomination de l'abomination, lui pouvait conserver le tiers de sa valeur produite, donc, et aujourd'hui, un salarié, ou même de façon de profession libérale, c'est à peu près les mêmes taux confiscatoires, on est redescendu à un quart. puisque tout, bon, évidemment, tout, tout impôt confondu. Donc, on voit bien le sens de l'histoire et le progrès que nous ont apporté les Lumières.
Lavoisier a été guillotiné par la République, non pas parce qu'il avait créé la chimie moderne, mais parce qu'il avait été fermier général. Donc, il recevait les impôts. Et à l'époque, il ramassait 10%.
Ah oui, non mais...
Ce qui veut dire que, à ce traitement-là, il ne resterait plus beaucoup d'énarques au ministère des Finances.
Bon, ben, je crois qu'on va finir là-dessus. C'est parfait.
C'est notre espoir.
Je rappelle le titre du livre de Jean-François Gauthier dans notre première partie, Le sens de l'histoire, une histoire du messianisme en politique. Merci à vous, Philippe Christel, Grégoire Gombier. Et voilà Pascal et Céric, vraiment le trou de mémoire, fin de ces chroniques de sur Radio Courtoisie. Nous nous retrouverons dans 4 semaines. D'ici là, continuez à nous écouter. Et il y aura une réécoute de cette émission jeudi soir et autrement sur lavieilleeurope.fr. Bonne soirée.